Vous écoutez On lit pour vous.
Les libraires craquent, littérature jeunesse, 12 suggestions des libraires indépendants, paru le 11 juin 2024 dans Les libraires. 1. Divine rivalité, tome 1, par Rebecca Ross. Depuis quelque temps, Roman C. Kitt reçoit des lettres mystérieuses qui apparaissent comme par magie au pied de son placard. Le plus étrange, elles sont rédigées par Iris E. Winnow, sa rivale professionnelle, et destinées à son frère aîné parti à la guerre. Iris est inquiète de ne pas recevoir de nouvelles de Forrest. Pourquoi ne répond-il pas? Lui est-il arrivé quelque chose? Va-t-elle le revoir un jour? Pris de remords et curieux de comprendre ce qui les unit, Roman se décide enfin à briser le silence. « Je ne suis pas Forrest. J'ai lu ce livre d'une traite. Un récit de guerre rempli de sacrifices, d'amour, d'intrigues et d'une touche de fantastique. Quoi demander de mieux? » Dès 14 ans. 2. « Me prendre dans mes bras, tome 2, par Evelyne Fournier. » Le deuxième tome de « Me prendre dans mes bras » est encore une fois une ode à la vie d'une grande beauté. Résilience et pardon sont au centre de cette histoire dans laquelle la vie de Marie-Soleil est chamboulée à tout jamais. L'autrice crée avec brio des personnages attachants pour lesquels on ne peut que compatir, même lorsqu'ils sont décourageants. À travers ceux-ci, les petits et gros deuils vécus sont dépeints avec une sincérité et une douceur qui nous rappellent qu'au bout du tunnel se cache toujours un avenir meilleur. À l'instar du tome précédent, ce second volet renverse les cœurs et enlace l'enfant en chacun de nous. Dès 14 ans. 3. Fire and Frost, tome 1, L'Alliance, par Ellie Blake. Gros coup de cœur pour ce livre fascinant. Impossible de décrocher de l'histoire qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Nous retrouvons Ruby, l'une des dernières sangs de feu rescapées, qui, à la suite de l'assassinat de sa mère par les sangs de glace, se retrouvera prisonnière de ceux-ci. Elle sera délivrée par le mystérieux Arcus, un rebelle du clan ennemi, avec qui Ruby s'alliera pour renverser le pouvoir du roi cruel et impitoyable, tout en assouvissant sa vengeance pour la mort de sa mère. À lire d'une traite, dès 15 ans. 4. Alerte à Malibu, par Jason June. J'ai adoré ce roman pour son humour et les émotions qu'il suscite. Un livre qui mérite d'être connu. Cette histoire commence lorsque Crète, un homme sirène, est envoyé sur Terre afin d'aider un humain et ainsi accomplir son rite de passage, lui donnant la permission de regagner l'océan. En cas d'échec, il sera banni des mers et ne pourra plus y retourner. La créature de l'eau fera alors la rencontre de Sean, un beau sauveteur au cœur brisé à la suite d'une rupture. Crète voit enfin la possibilité de réaliser son objectif et décide de lui prêter main forte pour que Sean puisse récupérer celui qui occupe ses pensées. Entre amour et amitié, les deux êtres feront face à une irrésistible attraction l'un envers l'autre. Ils sont pourtant destinés à deux mondes différents. Dès 15 ans. 5. On ne dit pas Sayonara, par Antonio Carmona. On ne dit pas Saronaya est raconté au jeu par Élise, une jeune fille de 12 ans qui vit difficilement le deuil de sa mère japonaise décédée 4 ans auparavant. Le père a effacé toute trace de sa femme et refuse que quiconque parle d'elle ou de son pays d'origine. Ce roman est émouvant et rempli d'humour, en bonne partie grâce à Stella, l'amie excentrique et verbomotrice d'Élise. N'ayant pas de nouvelles de son beau-fils et de sa petite-fille, la grand-mère nippone débarque chez eux et ébranle la dynamique familiale toxique. Antonio Carmona utilise une écriture simple, mais sincèrement efficace, pour aborder un sujet délicat. Un livre qui fait du bien, dès 9 ans. 6. Les oiselles de nuit, tome 1, par Kate J. Armstrong. Quelle belle découverte que ce livre! L'autrice nous entraîne dans un univers rappelant Venise, mais avec une touche d'enchantement et de chasse aux sorcières. À l'heure des ténèbres, les oiselles de nuit doivent offrir une partie de leur pouvoir en donnant un baiser à la personne assez riche pour acheter leur service. En échange, les familles influentes de la ville les protègent de l'Église, qui tente par tous les moyens de les anéantir, ainsi que toute forme de magie. Car ces jeunes filles ne sont pas les seules à avoir des aptitudes particulières, et bientôt, il ne sera plus possible de se cacher. Les héroïnes devront choisir une voie pour défendre ce qui leur est cher. Un premier tome très prometteur qui donne envie de connaître la suite. Dès 12 ans. 7. Misébois, tome 1, Les terres isolées, par David Alexander Robertson. Préparez-vous à entrer dans un monde où peu d'humains ont pu se rendre jusqu'à maintenant. Avec ce roman fantastique, pour les adolescents, mais aussi pour les adultes, on découvre un univers parallèle au nôtre, ne connaissant malheureusement que neige et glace depuis de nombreuses années. C'était sans compter sur Morgan et Ellie, deux jeunes issus de la nation Cree, qui vont découvrir ce milieu possédant un imaginaire digne de celui de Narnia et qui vont lutter pour y faire revenir le printemps. Entre enjeux écologiques et réalités autochtones, on apprend beaucoup de ce livre. À travers la fiction et les personnages attachants, l'auteur nous sensibilise et nous permet d'entamer une réflexion nécessaire sur l'histoire, tout en nous faisant vivre moult émotions. Dès 10 ans. 8. Dans la nuit, tu te dévoiles, par Isabelle Jameson et Sylvain Cabot. Et si 36 pages étaient suffisantes pour se sentir compris? Je mettrais ce petit joyau d'album entre les mains de tous. Cette fiction est un miroir pour tous les Alex de ce monde. La beauté de la prose n'a d'égal que celle du message transmis. Et que dire des illustrations? Un album plus que nécessaire qui nous entraîne tête première dans la réalité et les questionnements de la jeunesse transgenre. Brille, brille, petite étoile, cet album existe à présent et on y trouve plus de réponses que de questions. Dès 7 ans. 9. Le sang des monstres, par Mathieu Fortin. Cette nouvelle collection, Chaos, nous permet, grâce à l'ordre mélangé des chapitres, d'entrer dans le vif de l'action dès la première page. Dans Le sang des monstres, Mathieu Fortin nous emporte aux confins d'une saison qui se voulait ordinaire. Boulot d'été, soirée près du lac. Mais ces adolescents, ayant soif d'adrénaline, s'aventurent de nuit dans une dense forêt dans le but avoué de visiter un vieux sanatorium délabré et abandonné depuis plusieurs années. Ils y réveilleront un mâle endormi depuis longtemps et le regretteront. Loups-garous, sirènes, anges, démons et dragons, plusieurs créatures mythiques s'affronteront afin que le bien l'emporte. Une histoire en deux parties qui vous gardera en haleine jusqu'à la fin. Dès 12 ans. 10. L'arme du crime, par François Gravel. J'adore la collection noire de La Courte Échelle. Dès les premières pages de L'arme du crime, j'ai su que ce titre amenait cette collection où elle n'était jamais allée. Pourquoi? Tout d'abord en raison de son sujet, les poltergeists à l'adolescence. Cependant, c'est l'intensité de la violence du personnage principal et celles de l'histoire qui m'ont le plus frappé. Alec et sa colère pleinement assumée m'ont totalement estomaqué. Qui plus est, les nombreuses illusions d'optique en pleine page transmettent à merveille le trouble psychologique, le malaise. Un livre qui donne tout son sens au slogan de la collection « Interdit aux peureux » et qui amène le jeune lectorat aux portes de la littérature d'horreur pour adultes. Dès 13 ans. 11. « Mon enfant est meilleur que le tien » par Alain M. Bergeron et Marjorie Blais-Simard. Au Québec, le hockey est une religion qui compte de nombreux fidèles. Du coach de salon à l'athlète professionnel, il y a tout un spectre de personnalités dans cet univers haut en couleur. Cette fois-ci, nous pointons du doigt les parents un peu trop impliqués. Plusieurs jeunes ont vécu cette situation fâcheuse de voir un proche dans les estrades insulter l'arbitre ou encore s'en prendre à un autre parent parce que ton enfant nuit au mien. Cet album montre l'effet que ces comportements peuvent avoir sur les petits joueurs. Le livre s'adresse à ces derniers, mais il devrait être lu par toutes les familles de sportifs afin que le jeu reste amusant. Dès 3 ans. 12. L'arbre de Lily par Marie-Louise Gay. Encore une fois, grâce à ses magnifiques illustrations, Marie-Louise Gay nous raconte une histoire inspirante. Pour son anniversaire, Lily demande à son père de recevoir un arbre. Quelle drôle d'idée lorsque vous habitez au 5e étage d'un édifice muni d'un minuscule balcon. Lily pense aussitôt à promener son arbre en ville dans son petit chariot. On se moque un peu d'elle, car il aurait mieux valu demander un chien en guise de cadeau. Mais rapidement, l'ombre fraîche que procure à chacun l'arbre de Lily est grandement appréciée. Il n'en faut pas plus pour que débute la transformation d'un quartier, rendant ainsi la vie plus agréable aux petits et aux grands. Belle histoire sur l'écologie. Dès 4 ans. C'était les libraires crack, littérature jeunesse, 12 suggestions des libraires indépendants, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires.
Mère de personne, un texte de Pascal Petit-Gagnon paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Peut-on pleinement s'accomplir comme femme sans faire l'expérience de la maternité, de l'accouchement et de l'allaitement? On assiste ces années-ci à la libération de la parole des nullipares volontaires, celles qui ne se laissent pas contaminer par la peur de passer à côté de quelque chose. Ce texte a remporté la 3e place au concours d'essais organisé par Nouveau Projet. Papa, es-tu heureuse? Moi? Oui. Papa, avec un tel bonheur, je te verrai, maman. Moi? Lol. Papa, laisse la nature suivre son cours. Il me semble que tu aurais une charmante petite fille. Moi? Émoji, paume sur le visage. J'aurais voulu planifier cet échange de textos que je n'aurais pas pu. Ces mots, mon père me les a envoyés par un beau matin de février alors que j'étais en train de regarder le documentaire « Maman, non merci » de Magenta Baribeau. Oui, ça s'est vraiment passé comme ça. Je me suis offert des vacances en ce début d'année. J'avais besoin de ralentir pour mieux réfléchir, lire et écrire avant de poursuivre. La dernière année a été forte en rebondissements. Divorce, déménagement de Montréal vers la Côte-Nord, nouveau rôle de belle-mère. Disons que mon père avait bien raison de s'enquérir de mon bonheur. Je ne me souviens plus du moment précis où j'ai su que je ne voulais pas d'enfant. Cependant, je me rappelle une brève période à l'adolescence durant laquelle j'ai souhaité me faire enlever l'utérus. « Je n'en aurais pas besoin, » pensais-je, comme je ne voulais pas de bébé. « Tu verras, tu vas changer d'idée, » qu'on me disait. Or, ce ne sont pas ces commentaires visant à me ramener dans le droit chemin qui mirent fin à mon désir de me libérer d'une partie de mon corps que je jugeais alors encombrante et inutile. Mais c'est plutôt lorsque j'ai compris qu'à cet âge, 16 ans, une hystérectomie totale engendrerait une ménopause prématurée. Si j'ai définitivement abandonné l'idée de faire subir à mon corps cette chirurgie, mon désir de ne pas être mère est resté bien ancré en moi. Plus jeune, lorsque je m'imaginais à l'âge adulte, je me voyais membre d'une quelconque haute direction, talons hauts aux pieds, au volant d'une Jaguar noire, comme celle que conduit Thierry Lhermitte dans le film « Le zèbre ». Il n'y avait pas de place pour des enfants dans ma vision d'avenir. 25 ans plus tard, mes aspirations professionnelles ont changé et j'en suis fort aise. Si j'ai vite renoncé à ma voiture de rêve, mes pieds ont parfois été meurtris par des chaussures trop hautes, inconfortables et hors de prix, même si les récentes années de pandémie ont fait de moi une adepte assumée de la pantoufle. La pantoufle coquette, précisons-le. Malgré tout, un élément de ma vision d'avenir est demeuré inchangé. La certitude que mon accomplissement personnel ne passe pas par l'expulsion d'un petit corps venu du mien. Les annonces de nouvelles grossesses dans mon entourage ne font jamais jaillir chez moi ce sentiment d'enthousiasme qui semble être la norme, et je m'en suis longtemps senti coupable. Vous avez déjà remarqué comme les gens s'extasient en apprenant qu'une femme est enceinte? La nouvelle décroche même un sourire aux plumes roses. Mais j'ose l'avouer ici. Mon premier réflexe lorsque j'apprends qu'une femme est enceinte est de me dire qu'une autre de plus s'est fait enfiropper. Oui, donner la vie représente à première vue un événement heureux, la promesse d'un futur rempli de beaux moments qui permettra aux parents de goûter à l'ultime accomplissement de soi, dit-on, assurer sa descendance et laisser une trace de son bref passage sur cette planète. Personnellement, j'ai toujours eu la ferme conviction que certaines femmes qui deviennent mères portent en elles un désir inassouvi, celui d'une vie différente de celle que notre société veut nous offrir. Pour celles qui se conforment, l'ordre est toujours le même. Étudier, dénicher un emploi, trouver le meilleur géniteur possible, devenir propriétaire. Les probabilités augmentent ici si vous avez déniché un bon emploi et ou un bon géniteur, faire des enfants et, finalement, s'assurer qu'ils suivront à leur tour ce chemin déjà tracé. Ces matriarches n'ont-elles jamais envisagé sérieusement la possibilité d'une vie hors de cet éternel recommencement? C'est en lisant l'écrivaine canadienne Sheila Hattie, « La mère en moi », 2020, que j'ai pu mettre des mots sur mon ressenti resté longtemps indicible. Si je me pose des questions sur la possibilité d'avoir des enfants, est-ce parce que la banquise que nous occupions, en se fracturant avec chaque nouvelle grossesse, est devenue de plus en plus petite, me laissant échouer sur un minuscule bloc de glace? Pourtant, j'avais cru que cette banquise serait pour toujours un grand, un vaste continent où nous resterions toutes ensemble. Jamais je n'ai pensé que j'y finirais seul. Je sais bien que je ne suis pas seul. Mais comment faire confiance à celle qui reste, moi qui me suis tellement trompé sur les autres? Je suis ébranlé par leur désertion. Celles qui choisissent de ne pas devenir mère ont trop peu de modèles auxquels s'identifier. Le concept de la nullipare volontaire étant encore tabou aujourd'hui, même chez certaines féministes. Malgré les pressions sociales et les croyances, des femmes vous le confirmeront, il y a un salut hors de la maternité. Je ne m'élève pas ici contre les femmes qui deviennent mères. Je défends plutôt notre droit de choisir. Je ne suis d'ailleurs pas la seule à penser qu'il est irréaliste de croire que toutes les mamans ont décidé de le devenir de leur plein gré. Orna Donath, Le regret d'être mère, 2019, parle du « leurre d'une existence totale de choix ». Même son cloche chez Mona Cholette, dans « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». La liberté de choix dont nous sommes censés disposer est, ellipse, largement illusoire. En somme, ces deux essayistes nous rappellent tristement que nous, les femmes, avons la liberté de choisir tant que nos choix restent socialement acceptables. Vous écoutez « Mère de personne », un texte de Pascal Petit-Gagnon paru le 24 août 2023 dans le magazine « Nouveau projet ». Autre temps, même combat. En juin dernier, la révocation de l'arrêt Roe contre Wade par la Cour suprême des États-Unis a resserré un peu plus l'étau autour du droit des femmes à disposer de leur corps tel qu'elles l'entendent. Soudainement, la servante écarlate ne semble plus si loin de la réalité. Cela s'avère préoccupant lorsque l'on sait que Margaret Atwood, l'autrice du roman adapté pour la télé, s'est inspirée de faits historiques pour créer Gilead, une société répressive et misogyne où les femmes en sont réduites à servir la République, lire ici les hommes. Chaque femme a sa fonction au sein de cette société et celles qui sont fertiles sont forcées à se reproduire contre leur gré afin d'assurer la pérennité de la civilisation. À la création de son roman paru en 1985, Margaret Atwood a puisé certaines de ses idées dans des reportages écrits depuis la Roumanie. Dans les années 1970 et 1980, sous la dictature du président Nicolae Ceausescu, des femmes étaient forcées à faire des enfants sous prétexte d'enrichir le pays. Une loi stipulant que les Roumaines devaient avoir 4 enfants a été votée. On les obligeait à passer un test de grossesse tous les mois, et s'il s'avérait négatif, elle devait expliquer pourquoi. Au Canada, à la même époque, des élus ont voulu s'attaquer à la régulation des naissances et à la stérilisation volontaire, avec l'objectif ultime d'anéantir le mouvement des femmes. Dave Nickerson, un député conservateur progressiste fédéral, a même enjoint les couples canadiens à faire un bébé pour Noël, afin de relever le taux de fécondité du Canada, qui avait chuté à un niveau record. Troublant constat, des déclarations du genre pourraient aujourd'hui faire les manchettes sans que l'on crie à l'anachronisme. Femmes de 2023, vous vous gourrez si vous tenez vos droits fondamentaux pour acquis, et ce, peu importe les efforts déployés à ce jour pour nous permettre de réaliser ces avancées. Les Américaines ne sont pas les seules à qui l'on a récemment retiré des droits qu'elles considéraient jusqu'à maintenant comme acquis. Pour les Polonaises, l'avortement est désormais uniquement légal dans des cas de viol, d'inceste ou de menace pour la santé et la vie de la mère. Et encore là, il faut le prouver. Les Hongroises, elles, ont vu la loi autour de l'avortement se durcir, qui les oblige maintenant à écouter les battements de cœur du fœtus avant de pouvoir procéder à l'interruption volontaire de leur grossesse. Vous pouvez me traiter d'alarmiste ou même de parano, mais il m'arrive régulièrement de me demander jusqu'à quel point je serai témoin du recul du droit des femmes de mon vivant. Nous ne pouvons plus nier que le natalisme est une affaire de pouvoir et non d'amour de l'humanité, comme le résume si bien Mona Cholette dans « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Belle quoi? Depuis que je suis devenue belle-mère, il semble qu'une partie de l'énigme que je constituais jusqu'à présent aux yeux de la société ait été résolue. Cette maternité de substitution, toujours pour reprendre une idée de Mona Cholette, m'a valu ma carte d'accès au grand club de la maternité. Par la porte d'en arrière, entendons-nous. Je ne pourrai jamais me targuer d'avoir donné la vie, mais je pourrai enfin libérer mon instinct maternel, jusque-là inconsciemment refoulé, m'a-t-on dit, auprès d'enfants qui ne sont pas les miens. Je pourrai à mon tour prendre part à ces conversations entre mères qui m'ont si souvent ennuyé et déçu. Déçu, oui, de constater que ces femmes que j'avais connues ambitieuses et indépendantes en étaient venues à ne parler que de leur progéniture lorsqu'elles trouvaient finalement un moment pour se réunir. Comme si elles avaient renoncé à reprendre la place qui leur revient dans leur univers, ne serait-ce que le temps d'une soirée entre amis. De quoi donner raison à Lucie Joubert, l'autrice de « L'envers du landau » 2010, qui dénonce le cas d'une consœur universitaire enceinte se faisant souhaiter bonne chance par ses collègues pour son vrai projet, en référence à son rôle de mère. Contrairement à mon père, qui croit que je devrais laisser la nature suivre son cours et donc me décider à tomber enceinte, j'ai toujours pensé qu'on sous-estimait l'apport des autres modèles d'adultes dans la croissance des petits-petites. Le proverbe ne dit-il pas qu'il faut tout un village pour élever un enfant? Une thérapeute familiale a récemment partagé avec moi le concept d'adulte bonnie, bonus adult, que je préfère de loin à celui de belle-mère, contraignant à mes yeux et si souvent dépeint de façon péjorative. Pensons seulement à celle de Cendrillon ou d'Aurore, l'enfant martyr. L'adulte Bonnie offre à l'enfant une relation empreinte d'une dynamique différente de celle qu'il vit avec sa mère ou son père. L'adulte Bonnie n'est pas le parent de l'enfant et ne le sera jamais, quoi qu'on puisse en dire, mais c'est un terme qui me permet de m'affranchir du carcan maternel dans le contexte d'une relation femme-enfant. Ainsi, je respire mieux au sein de ma nouvelle famille recomposée. Progressivement, j'y trouve ma place sans que mon statut ait à comporter le mot « mère ». Qui a le plus à perdre du libre choix des femmes? Qui a le plus à gagner à faire croire aux femmes que l'ultime accomplissement passe obligatoirement par la maternité? Je fantasme sur une société qui cesserait d'assujettir les femmes qui ont choisi de ne pas être mères à un état de culpabilité qui fait qu'elles se sentent inadéquates, et qui valoriserait plutôt la diversité des rôles qu'elles peuvent adopter et tous les bénéfices que l'on peut en tirer collectivement. Être mère de personne est un droit qui repose sur de bien fragiles acquis. C'était « Mère de personne », un texte de Pascal Petit-Gagnon paru le 24 août 2023 dans le magazine « Nouveau projet ».